Bonjour, merci. Merci à tous d'être ici donc, pour cette conférence qui effectivement ne va pas être du tout technique. L'idée, c'est qu'on voit ensemble comment fonctionnent en fait les chaînes d'achat et les chaînes d'approvisionnement. Donc qu'on redéfinisse un peu ensemble le fonctionnement de ces chaînes. Qu'on refasse effectivement un petit point sur l'impact qu'ont eu les crises ces dernières années sur les tarifs qui sont appliqués par les fournisseurs et qu'on voit ensemble, une fois qu'on a redéfini ces points, les solutions qui s'offrent à vous pour mieux résister aux crises. Donc pour commencer, comme je vous le disais, nous allons voir ensemble donc ce qu'est une chaîne d'achat. Une chaîne d'achat, c'est une série d'activités qui impliquent l'acquisition de biens ou de services nécessaires au fonctionnement d'une entreprise. C'est composé de plusieurs étapes. Donc la première, c'est l'identification des besoins. Une personne ou un service a un besoin particulier pour atteindre un objectif. Il en fait part à une personne responsable des achats ou alors à un service achat. Une fois que ce besoin a été pris en compte, la personne en charge des achats sélectionne des fournisseurs. Alors, on a plusieurs manières de sélectionner un fournisseur, soit par son prix, soit par la qualité de ses produits ou de son service, soit par la disponibilité des produits ou soit par la relation qu'on peut avoir en amont avec ce fournisseur. À partir du moment où le fournisseur a été sélectionné, on passe les commandes. Ensuite, on réceptionne les produits et les services, on les inspecte pour s'assurer que ça correspond au cahier des charges. Et si tout fonctionne bien, le fournisseur facture et le client effectue le paiement. La chaîne d'approvisionnement, quant à elle, excusez-moi, j'ai fait une erreur. La chaîne d'approvisionnement, quant à elle, c'est aussi un ensemble d'étapes, mais qui va de la conception du produit jusqu'à la vente au client final. La chaîne d'appro, elle comprend plusieurs étapes clés, mais ces étapes, elles peuvent différer en fonction de l'entreprise, mais j'ai pris les principales aujourd'hui pour qu'on refasse un point ensemble. Donc la chaîne d'approvisionnement, qui est aussi appelée chaîne logistique, elle commence au moment... Elle arrive juste après en fait la chaîne d'achat et elle commence au moment où le fournisseur vous a livré le matériel, les produits ou services ou les composants. Ensuite, on rentre en phase de fabrication du produit. Une fois que celui-ci est fabriqué, il est stocké, entreposé, soit en interne quand les locaux le permettent, soit en externe. Donc alors, il faut chercher un autre prestataire. Ensuite, les produits ou les services sont distribués. C'est aussi une étape qui est réalisée soit en interne quand la livraison est effectuée par la société, soit en externe par un service logistique, donc un prestataire extérieur. Ensuite, les produits sont vendus, donc en fonction des canaux qui ont été choisis par l'entreprise. Si cela s'avère nécessaire, l'entreprise s'occupe de la gestion des retours et de l'insatisfaction des clients, l'objectif étant évidemment de les satisfaire. Donc c'est par exemple la mise en place d'un SAV. Et tout au long de ce processus, il faut recueillir les informations et avoir une bonne gestion des données pour les analyser et modifier la chaîne ou les chaînes aux besoins. Les analyses, elles permettent l'efficacité des chaînes, il faut évidemment les optimiser. Ça permet de rester compétitif et de répondre aux demandes des clients de manière efficace et surtout de s'adapter aux changements économiques et aux défis logistiques. Les deux chaînes, c'est le quotidien de toutes les entreprises. Quand l'entreprise est petite, les chaînes sont gérées souvent par une seule et même personne. Et plus l'entreprise est grosse, plus il y a des services qui sont en charge de la gestion des étapes de la chaîne. Peu importe la taille de l'entreprise, ces deux chaînes sont évidemment nécessaires. Il faut les mettre en place, les comprendre et les analyser. Et il faut bien prendre en compte, qu'en temps de crise, elles sont impactées simultanément. Donc on va refaire un point sur les impacts des crises et on va partir du principe que ce qu'on subit aujourd'hui, la crise principale, la crise zéro, c'est la crise du Covid qu'on a vécue en 2020. Pourquoi ? Parce qu'elle a entraîné dans un laps de temps très très court des sommes d'effets qui ont été très compliquées à gérer pour les entreprises. Alors cette crise Covid, elle a eu des impacts négatifs. comme le ralentissement économique et la récession, des fermetures temporaires et des restrictions, du chômage partiel, des faillites et des pertes d'emplois. On a aussi vu quelques impacts qu'on pourrait appeler positifs, donc l'investissement dans la sécurité, la sécurité sanitaire, qui a été un investissement pour les entreprises, mais dans l'objectif de protéger les personnes avec qui on travaille. Il y a eu une accélération de la transformation numérique, l'adaptation des modèles commerciaux. En effet, beaucoup d'entreprises ont su s'adapter rapidement. Il y a eu un changement de comportement des consommateurs qui a été quand même assez important dans certaines filières. Et il y a eu une grande incitation à l'innovation. Au moment de l'impact, certaines entreprises étaient déjà fragilisées et sans soutien gouvernemental, elles n'auraient certainement pas résisté à la crise. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau mondial, on a subi une chute des bourses, avec surtout, on a été très impacté en Asie et en Europe. Le CAC 40, pendant cette période, a subi la pire journée de son histoire. Il y a une baisse des valeurs des actions, une crise des liquidités, une réduction des investissements et des projets, et un impact sur les fonds de pension et les retraites. Mais le point le plus important dans l'économie actuelle, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus de mal à analyser que les points qu'on vient de voir ensemble, c'est la baisse de confiance des investisseurs. À la sortie de la crise Covid, on a observé une reprise économique et une reprise des commandes qui était assez importante, et en particulier dans certains secteurs. Mais en 2021, on a eu un début de crise énergétique qui est arrivé sur nos marchés, avec un début de pénurie des énergies. Cette crise a été suivie assez rapidement, début 2022, par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui a aggravé le phénomène de pénurie sur les énergies et donc l'augmentation des prix. Et puis on a pu aussi voir des pénuries, en particulier dans le secteur alimentaire. Je ne reviens pas sur les raisons, je pense que tout le monde sait très bien ce qui s'est passé. Puis on a une crise qui est arrivée ensuite, dont on a un peu moins parlé, mais qui a eu un impact considérable sur les chaînes d'approvisionnement, c'est le lockdown, la fermeture du port de Shanghai suite à un reconfinement. Et les bateaux n'avaient plus le droit d'entrer et de sortir du port. Or, c'est quand même l'un des ports les plus importants du monde, voire le plus important du monde. Donc, les chaînes d'appro ont été vraiment, vraiment déstabilisées. Donc, en période haussière, nous observons l'anticipation de l'augmentation des prix par les acteurs du marché, les industriels, les traders, et une surévaluation des stocks disponibles. Le secteur brassicole n'a pas échappé à cette tendance. L'impact macroéconomique pour les marchés, c'est un cumul de deux facteurs. L'inflation, qui est donc une hausse persistante du niveau des prix et qui entraîne une baisse du pouvoir d'achat, une augmentation des coûts de tous les intrants, qui est aujourd'hui cumulée à une hausse des taux d'intérêt, donc l'augmentation des coûts d'emprunt et de l'argent et des financements, ce qui entraîne une augmentation des coûts des capitaux, des investissements, des expansions et des dépenses opérationnelles. L'impact microéconomique pour les entreprises, c'est une augmentation du coût de tous les intrants, les matières premières, les produits bruts, les énergies et toutes les autres ressources, à laquelle se cumule une augmentation des coûts de production, ce qui entraîne une baisse des marges ou une évaluation du prix des produits à la vente. En plus de ces deux impacts, selon une étude sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard, pendant cette période de crise, l'économie vacille, mais les relations avec les fournisseurs aussi. Habituellement habitués à travailler dans une relative confiance, les acheteurs ont dû faire face à de nouvelles relations qui ont été implicites avec les fournisseurs, puisque les entreprises manquaient cruellement d'informations. On a pu observer un manque de dialogue et dans certains cas un dialogue rompu. Un certain nombre d'entreprises ont par exemple reçu des courriers d'augmentation de tarifs sans négociation préalable ou sans négociation après réception du courrier. Il y a eu un grand manque de visibilité, particulièrement sur les dates à laquelle on allait pouvoir réceptionner les intrants, combien on en aurait, est-ce qu'il y aurait une pénurie. Et il y a eu une dépriorisation des comptes clients, ce qui a fortement impacté le travail des entreprises et des secteurs qui étaient concernés dans les chaînes d'achat et d'approvisionnement. La combinaison des critères macroéconomiques, microéconomiques et relationnels ont eu un impact significatif sur toutes les chaînes d'approvisionnement. Et la chaîne d'approvisionnement globale, elle est rentrée dans un cercle vicieux. Et donc les fabricants, les transformateurs, les distributeurs ont subi les crises de plein fouet. Et toutes les chaînes d'appro qui étaient déjà désorganisées ont été complètement déstabilisées. Ce qu'on peut aussi observer, c'est que pendant la crise Covid, toutes les entreprises n'ont pas été impactées de la même manière. En effet, les entreprises de commerce, de distribution, le CHR et le tourisme ont été impactées de plein fouet, particulièrement parce qu'elles ont dû fermer et qu'elles n'avaient plus d'activité. Par contre, les entreprises de services avec des possibilités d'intervenir à distance ont, quant à elles, été un peu moins impactées quand elles ont su transformer leur modèle. Et on peut remarquer que le secteur de l'agroalimentaire, le secteur des produits de première nécessité, les circuits courts et les circuits de proximité, eux, ont plutôt vu des hausses de commandes. Après la crise Covid, la consommation des bières est restée à 33 litres par an et par habitant. Mais la bière est devenue pour la première fois l'alcool préféré pour 51% des Français, ce qui fait une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. Si on restait sur cette étude, la dernière qu'on vient de voir ensemble, on pourrait presque penser que finalement le Covid a été, au-delà de l'augmentation des tarifs d'achat, presque bénéfique pour le secteur. Mais quand on observe la consommation de bière en France, quand on observe la consommation totale de bière en France de 2011 à 2021, on peut remarquer qu'entre la période de 2019 et de 2020, on a quand même une baisse des consommations de l'ordre de 6,78%. Pour l'année en cours, on a une hausse des coûts de revient qui est de l'ordre de 10,9% par rapport à juillet 2022, à laquelle on peut cumuler une hausse des prix à la vente de plus 3,5% et une baisse de consommation qui a été étudiée sur les 8 semaines avant l'étude de laquelle je vous parle aujourd'hui, donc une étude de direct.fr du 9 août 2023, qui laissait supposer qu'on aurait une baisse des volumes des ventes sur cette année et sur l'année à venir. Cependant, on peut noter que depuis le début du second trimestre, on voit quand même une tendance qui semble repartir à la hausse au niveau des consommations de bière. Donc, grâce à ces études, on peut quand même être certain que c'est la succession et le cumul des crises de ces trois dernières années qui ont impacté le secteur brassicole et le reste des marchés. Donc, maintenant, on va voir ensemble comment essayer de transformer les perturbations subies en opportunités. Donc, l'idée, c'est d'intervenir sur les différentes chaînes dont on a parlé tout à l'heure. Et la première est de voir ensemble comment essayer d'optimiser la fonction achat, donc dans la chaîne achat. Vous voyez ici une étude qui n'est pas très... évidemment, il y a beaucoup de choses dessus, mais ce sur quoi je voudrais qu'on s'arrête, donc c'est une étude de l'ADRA qui a été faite donc par l'ADRA By Your Way pour le ministère de l'Économie et des Finances en juin 2020 et qui a interrogé 76 responsables d'achat, directeurs d'achat, responsables de fabrication et responsables RSE dans tout type d'entreprise, du privé et du public. Et en fait, cette étude, elle nous montre que la crise, elle a bouleversé la fonction achat et les principales informations montrent qu'il y a un nouvel ordre des compétences qui s'est établi. En effet, la négociation n'est plus la compétence principale pour être un bon acheteur. Les nouvelles compétences à développer ou à renforcer sont, donc, pour les compétences techniques, les hard skills, une meilleure gestion des risques, plus de connaissances juridiques, parce que beaucoup d'acheteurs ont été confrontés à des problématiques de contrats rompus et ne savaient pas très bien comment le gérer, une meilleure gestion des flux, donc en accord avec la chaîne approvisionnement pour rester efficace et compétitif, et une meilleure maîtrise des outils numériques. Pour les soft skills, donc les compétences personnelles, pardon, il faut faire preuve de beaucoup plus de proactivité pendant et qu'avant les crises, être plus résilient au stress, ce sont des périodes qui sont très stressantes pour tous, avoir plus de leadership et faire preuve de beaucoup de créativité pour trouver des solutions quand on n'est pas livré ou quand notre chaîne a été désorganisée. 85% des personnes interrogées considèrent que la fonction achat est l'une des plus stratégiques, surtout depuis la crise Covid. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, la deuxième chaîne qu'il est possible d'optimiser, c'est la chaîne des approvisionnements. Donc, en augmentant ses investissements technologiques avec la transformation numérique, en rendant sa chaîne logistique plus agile, l'idée étant d'étendre ou de réduire en temps réel, presque en temps réel, en fonction des commandes clients, sa chaîne d'approvisionnement pour qu'elle nous coûte le moins possible. Il ne faut pas rester figé sur son fournisseur ou ses produits. Il faut connaître les autres fournisseurs du marché et cela nous permet en fait de changer facilement de produit ou de service quand on rencontre un souci avec le fournisseur qu'on a habituellement. Il faut rendre ces chaînes plus vertes et circulaires, essayer d'avoir la plus grande efficacité énergétique, éventuellement faire du réemploi. Et il faut mieux connaître ces chaînes d'appro pour en réduire les coûts et en plus étudier constamment ce qui se passe sur le marché et sur les autres marchés pour pas attendre d'être percuté pour effectuer des changements. Une fois qu'on a fait le point sur ces chaînes et qu'éventuellement donc on les a analysées et améliorées, on peut avoir une action sur la politique d'achat. Et donc, une politique d'achat, ça s'élabore et donc ça commence, comme pour les chaînes, par une identification des besoins avec des analyses internes ou externes. Ensuite, on définit les objectifs, on se fixe des objectifs, on définit un plan d'action et on déploie la politique en interne. À partir du moment où chacun sait ce qu'il a à faire, on recherche les meilleurs fournisseurs. On entre en relation avec eux et on communique sur nos objectifs. Il faut faire preuve de transparence. Et à partir du moment où on reçoit les offres, on les analyse et on sélectionne son ou ses partenaires. Une fois qu'on a élaboré une politique d'achat, il faut bien avoir conscience pour améliorer ses achats qu'il y a un pouvoir de l'acheteur et un pouvoir du vendeur. Le pouvoir de l'acheteur, c'est quand le produit ou le service qui est vendu par le fournisseur ne représente qu'une petite partie du chiffre d'affaires, mais une grosse partie du chiffre d'affaires du vendeur. Quand l'acheteur connaît parfaitement les fournisseurs et ses produits, parce que comme ça, il peut discuter un peu d'égal à égal quand il négocie, le fournisseur a de nombreux concurrents capables de répondre aux besoins de l'acheteur, ce qui permet à l'acheteur de pouvoir faire beaucoup de comparaisons. L'acheteur a connaissance de son marché, il est reconnu dans sa profession ou sa région et surtout, il n'est pas pressé d'acheter. Le pouvoir du vendeur, quant à lui, c'est quand le client connaît parfaitement les produits et les services du vendeur et qui travaille déjà avec et que de changer ce produit réinterroge le fonctionnement de la chaîne de production. Le pouvoir du vendeur, c'est aussi quand l'acheteur est pressé d'acheter puisque s'il veut être livré vite, il négocie à moins. Le produit et le service ne représentent pas une proportion importante du chiffre d'affaires. Le client a de nombreux concurrents, ce qui signifie que le vendeur, s'il perd le marché, il va vite pouvoir aller récupérer ses volumes ailleurs et assez facilement. Quand le vendeur a un produit qui est très très peu challengé, il n'a pas besoin de négocier. Et quand le client se sert du produit du vendeur pour se différencier, ce qui signifie que le client va avoir du mal à changer de produit. Si on prend un petit peu ces données de rapport de force pour le secteur de la brasserie artisanale, par exemple, la brasserie indépendante représente 8 à 10% du marché brassicole. Donc on peut se dire que les acteurs majeurs, nos fournisseurs majeurs, quand ils viennent négocier sur cette partie indépendante, finalement, ils ont le reste du marché qui représente quasiment 90%. Et donc, le pouvoir de force est plutôt en faveur du fournisseur. Donc, concernant les méthodes, on a plusieurs méthodes pour optimiser ses achats. La première, c'est se différencier. Par son produit, par son image ou par ses valeurs, Le fait de se différencier, ça permet de toucher des clients, une cible de clients qui est peu impactée par le prix et qui est peu impactée par les crises. Ensuite, on a la négociation directe. Donc, c'est le fournisseur qui redistribue une partie des gains qu'il réalise sur une économie d'échelle dans le processus achat à pro. Il y a un inconvénient majeur, c'est qu'il faut que le client et le fournisseur soient en phase sur la chaîne à ce moment-là. Pour que ça soit bien clair, je vais vous prendre un exemple précis. Par exemple, vous êtes client et vous achetez un demi-camion de bouteilles par trimestre. Et vous négociez avec votre fournisseur et vous lui dites que, en contrepartie d'une petite rétribution sur l'économie d'échelle qu'il fera sur ses stocks ou sur sa logistique, vous allez passer en commande deux camions par an. Donc là, ça a quand même... je me reprends le fil. L'inconvénient, c'est qu'on donne à ce moment-là toute ou une très grande partie de ses volumes aux fournisseurs et quid de ce qui se passera si le fournisseur est en pénurie ou ne peut plus vous livrer ou s'il casse le contrat en cours d'année. Et ensuite, il y a d'autres formules qui peuvent se présenter à vous. Donc, les groupements, c'est idéal quand le secteur d'activité est peu représentatif pour les fournisseurs. Donc, on a plusieurs types de groupements. Le premier, c'est le groupement d'achat. Il peut être intégré ou il peut être extérieur. Donc, s'il est intégré, l'inconvénient, c'est qu'il y a un investissement personnel. Si vous vous regroupez, par exemple, en GIE ou en entreprise, il faut faire vivre ce groupement d'achat. Donc, il faut avoir des activités dedans et travailler dedans. Donc, ça peut quelquefois faire double emploi. Et si jamais vous décidez de ne pas travailler dedans, il faut investir sur du personnel qui va pouvoir le faire vivre. Ensuite, vous avez une autre manière de faire des groupements d'achat. C'est par exemple, vous êtes en région ou sur un secteur et vous vous mettez à plusieurs brasseurs pour passer des commandes. C'est extrêmement intéressant parce que effectivement, ça permet des économies. Cependant, il faut gérer qui a la charge de travail et qui absorbe les coûts qui sont inhérents à la chaîne d'achat et d'appro. C'est-à-dire qui réceptionne, qui facture, qui refacture et qui relivre. Ces groupements d'achat, ils ont d'énormes avantages pour faire baisser les prix. Cependant, ils créent quand même de la massification et une certaine standardisation. Ensuite, vous avez les centrales, donc qu'on appelle de référencement ou de négociation. Donc là, c'est soit aussi une association de partenaires qui se fait et qui gère une centrale, soit un partenaire indépendant. La centrale, elle fait le travail d'un service achat. Elle prend en charge les étapes de la chaîne, au moins en grande partie. On peut se servir de la centrale en fonction de ses besoins et il n'y a pas d'engagement de volume. Il y a un retour sur investissement qui se fait plutôt rapidement et ça permet plutôt une mutualisation qu'une massification. Et une des dernières méthodes... Donc, les bénéfices des centrales ou des groupements d'achat, d'ailleurs, c'est une meilleure condition tarifaire grâce à l'effet des volumes, une rationalisation des achats, une économie de gestion et de fonctionnement, une introduction de critères sociaux et environnementaux dans la stratégie d'achat si c'est plébiscité par les membres. Et la centrale ou le groupement s'assure de toute la partie sourcing pour rester informé sur les évolutions du marché. Et donc il y a un dernier modèle qui s'offre à vous, une dernière méthode, c'est donc les appels d'offres. Alors l'appel d'offres, c'est intéressant parce que ça interroge tous les fournisseurs d'un secteur sur un cahier des charges précis et donc ça encourage la transparence et on étudie en fait le prix en fonction des critères qu'on a décidé en amont. Le seul inconvénient de l'appel d'offres, c'est qu'il faut un engagement de volume et effectivement standardiser une partie de ces achats. Évidemment, toutes ces méthodes peuvent se cumuler pour une meilleure efficacité. Donc, pour résumer, l'optimisation des chaînes achats et appro, c'est un enjeu majeur, surtout pendant une crise. C'est un process long qui demande des études, des analyses et de la réflexion. Il faut aussi optimiser ses coûts et particulièrement ceux des intrants. Pour ce faire, il est possible de mutualiser des achats. Dans sa stratégie, il faut tenir compte du fournisseur, des produits ou des services. Ils n'ont pas tous la même valeur ajoutée et ils n'ont pas tous les mêmes marges. Les chaînes doivent être agiles, le plus agiles possible. Et le rapport de force avec les fournisseurs doit se rééquilibrer pour que les entreprises puissent passer les crises le plus sereinement possible. Merci.
Si, voilà, une conférence qui nous a largement, qui nous a largement éclairé sur la suite. En filigrane, il faut comprendre que à plusieurs c'est mieux. et que être en compagnie d'une entreprise qui vous aide, ou à minima d'un syndicat puissant et vraiment impliqué, comme le SNBI, entre autres, hein, mais il y en a d'autres. Hein, je ne veux pas faire que la promotion de nos amis particuliers du SNBI qui sont avec nous depuis toujours, hein, mais qui vont pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Et tu pourras ajouter un petit peu l'entreprise à laquelle dont tu relèves.
Dont j'ai la charge, oui.
Tu l'as fait, mais tu peux ne pas hésiter à le redire. Et puis, bien entendu, chacun d'entre nous peut apporter son éclairage ou poser une question qui vienne un petit peu en appui à cette présentation que je remercie beaucoup d'avoir faite. Merci à elle. Alors, est-ce qu'il y a une question qui vient, qui vous surgit là derrière? Comment faire pour se mettre à plusieurs quand on est un peu concurrent? Pas simple, hein? Comment faire? On est concurrent, mais on va le faire ensemble. Ah.
Alors, effectivement.
Pardon. Allez-y.
Non, alors effectivement, c'est toute la question des méthodes que j'ai proposées. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui demandent, enfin en tout cas toutes ces méthodes demandent un collectif, c'est une certitude, sauf la différenciation et le fait de négocier évidemment seul. À partir du moment où on passe sur des phases d'appel d'offres pour être représentatif ou sur des groupements, qu'ils soient d'achat ou de référencement, effectivement, il faut plutôt avoir envie de jouer collectif. Cependant, on peut mettre une partie de ces achats sur ce type de groupement et avoir une autre partie de ces achats qui nous permet toujours de se différencier de la concurrence.